Le débat du jour. François Bernard.
Bonsoir, merci de nous accueillir à l'écoute de Radio France Internationale. En Algérie, une mobilisation populaire, la première de cette ampleur depuis 20 ans, réclame un changement de politique et la mise à l'écart de ceux qui l'incarnent. Le renoncement de M. Bouteflika, l'actuel chef de l'État, à briguer un cinquième mandat ne semble pas calmer les esprits. En repoussant la présidentielle à plus tard, il peut conserver son poste un petit peu plus longtemps, préparer sa succession, car le vieux président n'est que la façade d'une équipe en place depuis l'indépendance. Son clan est-il en mesure de passer la main, de renoncer à son pouvoir et aux privilèges de la rente pétrolière ? La colère populaire va-t-elle obliger la classe dirigeante à réenvisager l'avenir ? La crise peut-elle générer du changement ? On va se poser la question ce soir avec nos deux invités. Je vous les présente tout de suite. Je commence par vous, Radija Mochenfino. Vous êtes spécialiste du Maghreb et des questions méditerranéennes. Vous êtes l'auteur d'un livre qui a pour titre « Dissident du Maghreb », édité par Belin. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et puis Akram Belkaïd est lui journaliste au Monde Diplomatique, chroniqueur au quotidien d'Oran, collaborateur du site Orient 21 et auteur d'un livre qui s'appelle lui « Le pays empêché ». L'Algérie en 100 questions, c'est aux éditions Talendier. Bonsoir à vous, Akram Belkaïd.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre tous les deux dans le studio de RFI. Alors, il y a eu cette annonce du report de l'élection, la formation d'une équipe gouvernementale plus jeune, plus féminine, nous dit-on, la perspective de changement constitutionnel. On insiste à une véritable ouverture de la part des autorités ou à une manœuvre de diversion. Je commence avec vous, Akram Belkaïd.
C'est un gain de temps, c'est une entourloupe, c'est une manœuvre dilatoire, parce que c'est pas vraiment une... La vraie information, c'est pas tant le fait qu'il y aura pas de cinquième mandat que le fait qu'on a une prolongation, de fait, de facto, du quatrième mandat. Et qu'on ne sait pas combien de temps cette prolongation va durer. Et qu'on n'a pas de date précise sur les élections à venir. Et que l'on a simplement la promesse d'une conférence nationale inclusive, comme pour reprendre l'expression du régime, ce qui laisse entendre que jusqu'à présent, on était dans un champ politique d'exclusion. C'est un aveu implicite de la part du pouvoir. Et en tous les cas, c'est absolument pas ce que veulent les gens qui manifestent, qui, eux, refusaient le cinquième mandat, mais pas que, ils exigeaient aussi le départ de ce régime. Donc on voit bien qu'on est à des années-lumière de ce que la population, en tout cas une grande partie de la population attend, et de ce que le régime a proposé comme solution, je dirais, de façade pour maintenir le statu quo.
Vous êtes d'accord avec cette analyse, Khadija Mochenfino ?
Oui, tout à fait, et je la prolongerai en disant que ces manifestations ont mis en évidence le divorce qu'il y a entre la classe dirigeante et la population, ou en tout cas celle qui manifeste aujourd'hui, et on voit qu'ils ne parlent pas du tout le même langage. Ça, c'est quand même très important aussi. Et on voit que la classe dirigeante connaît mal, finalement, les Algériens. Elle n'évalue pas leurs attentes, elle n'y répond pas. Et chaque fois qu'il y a eu un début d'ouverture du système, c'était pour que la classe dirigeante se maintienne mieux au pouvoir.
Et ça veut dire que la mobilisation des Algériens risque donc de durer.
Oui, ils sont déterminés. Ils sont déterminés et cela va durer d'autant plus qu'ils voient que cette manœuvre supplémentaire de la part du pouvoir met à nu une faiblesse aujourd'hui. Ils sont en plein désarroi, ils ne savent plus quoi faire. Ils veulent inclure, comme ça vient d'être dit, ils veulent donner des gages, ils veulent passer d'un mandat, quatrième mandat à l'infini, à quelque chose qui va se passer dans un an. Ils veulent passer de leur gouvernement à un gouvernement de technocrates. Donc ils essayent d'abattre des cartes. Et toutes ces cartes ne sont pas si satisfaisantes pour les protestataires.
Akram Belkaïd, est-ce qu'on peut craindre un recours à la force ?
Écoutez, pour le moment, ce qui est important aussi de signaler, c'est que nous avons affaire à un mouvement pacifique. Ce qui, dans l'histoire de l'Algérie, est tout de même assez important à relever. C'est-à-dire que, par le passé, à certains moments, les élans populaires de contestation du régime ont dérapé d'une manière ou d'une autre et se sont soit transformés en émeutes, soit en affrontements violents pour ne pas dire sanglant, avec, entre les protestataires et le régime. Là, nous avons affaire à une succession de mouvements organisés, structurés, de gens qui s'autodisciplinent, qui sont pacifiques et qui refusent la violence et qui font en sorte de ne pas affronter les forces de l'ordre. Aujourd'hui, par exemple, dans le cheminement des cortèges, il se trouve qu'à un moment donné, non loin de l'école des Beaux-Arts d'Alger, dans un boulevard qui monte vers les hauteurs de la capitale et qui va donc vers la présidence, un barrage des forces de l'ordre a été mis en place et les marcheurs, les contestataires ont fait demi-tour, sont repartis vers le centre-ville. Ils ont refusé d'aller, chercher l'affrontement. Donc on en est là aujourd'hui. Alors effectivement, votre question, elle est très importante parce qu'elle détermine, elle concerne la suite. C'est pour le moment, on est dans une situation de non-dérapage. Mais ce statu quo n'aide pas. Les gens reviendront vendredi prochain. Ils l'ont déjà dit. S'il n'y a pas d'annonces effectives qui sont faites dans les prochaines heures, dans les prochains jours, les gens reprendront les manifestations vendredi jusqu'à obtenir gain de cause. Le risque, c'est le pourrissement de la situation. Le risque, c'est les provocations qui viendraient de la part du régime ou d'un clan du régime ou de manipulateurs qui aimeraient le retour au statu quo. Et là, effectivement, on ne peut pas exclure l'hypothèse d'un dérapage. Mais si dérapage il y a, il ne sera pas mettre au passif des manifestants. Mm-hmm. Ce sera parce que le pouvoir aura refusé, comme l'a dit Khadija, l'aura refusé d'entendre une population que finalement il ne connaît pas.
On a l'impression, en parlant de cette population de manifestants, que la jeunesse joue un rôle important dans cette mobilisation par sa maîtrise de l'informatique, des réseaux sociaux, de la communication. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, bien sûr. D'abord, la majorité de la population est jeune et une grande partie, près de 40%, a moins de 25 ans, ce qui est quand même très impressionnant. Alors, justement, depuis 2011, il se peut que ces jeunes aient été mieux connectés au réseau, et ce qui explique peut-être qu'ils sont aujourd'hui dans la rue. Mais c'est vrai qu'ils se sont autodisciplinés, comme ça a été dit. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait de manière spontanée une discipline, mais ils se sont dit que le moindre dérapage pourrait arrêter le mouvement. Et là, effectivement, tout le monde l'a salué. On voit qu'il y a un projet sur le long terme, et que ce projet ne consiste pas du tout, comme au départ, de dire non au cinquième mandat de Bouteflika. C'est un projet de changement, de changement réel et de changement profond.
Mais est-ce qu'un changement radical, une meilleure répartition des richesses, par exemple, une nouvelle génération au pouvoir, est-ce que c'est vraiment envisageable?
Il faudrait l'envisager parce qu'on ne peut pas rester avec une équipe. Vous savez, Bouteflika, c'est le dernier de la famille révolutionnaire. Lorsqu'il va mourir, on va forcément, de toutes les manières, tourner une page. Donc là, ils essayent de tourner une page, non pas en coupant avec Bouteflika, mais en coupant avec ce régime qui a gardé ses hommes au pouvoir depuis 1962, ces hommes et ce système. Donc il va falloir, à un moment donné, passer à autre chose. Quel que soit, si vous voulez, même s'il y aura une période d'anarchie, une période de flottement, une période de violence, peut-être, mais en tout cas, il fallait passer à autre chose et envisager le changement.
Vous avez évoqué tout à l'heure, Akram Belkaïd, la possibilité pour les manifestants d'obtenir gain de cause. Je reprends vos propos. Quel type de revendication est désormais, alors, selon vous?
Alors la première revendication, elle est très claire, c'est on ne veut pas du mandat 4+ ou 4,5 ou 4,75, c'est-à-dire ce mandat, ce glissement, puisque nous sommes sur les ondes de RFI et que nos amis de RDC connaissent bien ce terme, c'est-à-dire la décision de prolonger un mandat alors que ce mandat est terminé, est échu. Donc ça, c'est une des premières revendications concrètes, mais elle ne s'arrête pas là. C'est, pour reprendre l'expression d'un manifestant, d'un jeune manifestant qui est intervenu alors qu'il y avait un direct d'une télévision arabophone, « itnahaouga », c'est-à-dire c'est-à-dire qu'ils partent tous, qu'on les enlève. Mmh. C'est-à-dire que ces gens qui sont honnis par la population, à savoir le frère du président, les dirigeants du FLN, le patron de l'Union Générale des Travailleurs Algériens, un syndicat qui est en réalité un syndicat briseur de grève, etc., etc. C'est-à-dire, c'est toute la symbolique de ce régime qui s'est renouvelé par les visages, mais qui est toujours resté le même.
Qu'on appelle un système, enfin qu'ils appellent là-bas le système.
Est-ce ou qu'il le pouvoir.
Reste, ouais, est-ce qu'il reste solide ce système, ou est-ce qu'il commence à se gripper avec les défections, éventuellement les luttes de pouvoir internes?
Alors pour le moment, il reste solide. Effectivement, il y a eu quelques craquelures. Il y a eu l'Organisation nationale des Moudjahidines, c'est-à-dire les anciens combattants de la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance, qui ont déclaré être aux côtés du peuple. Il y a des organisations, je parlais du syndicat, il y a des organisations locales qui se démarquent de l'organisation de la direction nationale et qui se disent elles aussi aux côtés du peuple. Chose très intéressante, on a vu les retraités de l'Armée nationale populaire, l'ANP, se dire eux aussi aux côtés du peuple, ce qui implicitement veut dire qu'ils sont bien plus proches des revendications que de la présidence. Mais pour le moment, ce n'est pas tout de même la fuite en avant. Enfin, il y a ce qui par contre très important, c'est qu'aujourd'hui, vous ne trouverez personne dans, à part quelques, je dirais, manières de brosse à reluire, il n'y a personne aujourd'hui pour défendre le régime. C'est un silence assourdissant aujourd'hui en Algérie, dans la presse algérienne. Personne n'osera aller défendre, à part les nouveaux dirigeants qui ont été nommés depuis peu.
Mais qui alors serait prêt à prendre la relève? Je vous pose la question, Khadija Mohsen Fenah. Parce que l'opposition en Algérie n'a jamais été autorisée finalement à jouer son rôle.
Non, elle n'a jamais été autorisée. Et dès le lendemain de l'indépendance, effectivement, elle a été décapitée, elle a été marginalisée, elle a été décrédibilisée. On a dit qu'elle était circonscrite à certaines régions. On a dit qu'elle était plutôt effectivement berbère que nationale. Il y a eu tout ce mouvement où on essayait de décapiter les têtes qui dépassent, ou alors de diviser les mouvements de l'opposition avec des courants historiques, des courants moins historiques. Ceci étant, quand on observe tous ces mouvements, il n'y avait pas d'opposition organisée et le changement était nécessaire. Mmh. Donc, est-ce que cette question, finalement, elle est pertinente, à savoir, on ne peut pas avoir aujourd'hui un leader de l'opposition, il ne peut pas fédérer tout le monde, mais je crois que le changement pourrait se concevoir comme ça a été le cas ailleurs, sans leader de l'opposition, sans opposition aujourd'hui visible. Peut-être qu'il y a des compétences qu'on ne voit pas, mais il y a aussi des partis politiques. Mais je crois qu'il y a des compétences qui ne sont pas visibles aujourd'hui et qui vont se rendre indispensables et qui vont essayer de dessiner un schéma alternatif.
D'accord. Quelle place au souvenir des années 90 qui sont, on s'en souvient, marquées par la violence, par la répression? Est-ce que c'est une crainte aujourd'hui encore de revivre cette période à Kram El Kaïd?
Bien entendu, elle est toujours là. Je rappelle encore une fois que l'Algérie, que la société algérienne est une société doublement traumatisée, au traumatisme de la guerre d'indépendance, s'est ajouté le traumatisme des années 90. Et il y a un troisième élément qui est le repoussoir, l'effet repoussoir des dérapages des printemps arabes, à savoir la situation en Libye ou la situation en Syrie. Mais la nouveauté dans ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que ce repoussoir, cette crainte, ces mauvais souvenirs qui ont joué par exemple en 2009 ou en 2014, parce que déjà à l'époque, il existait des Algériens qui s'opposaient au troisième et au quatrième mandat de Bouteflika. Et ils n'ont pas pu entraîner avec eux la société parce qu'une grande partie de la société avait encore en tête les dérapages des années 90. Aujourd'hui, une génération a passé. Un jeune qui est né en 2000, il a 19 ans aujourd'hui, il n'a pas connu la décennie noire. On lui en a parlé, on lui a rabâché les oreilles avec, mais lui, ce qu'il a connu, il n'a connu que 20 années de présidence de Bouteflika et il commence à en avoir assez. Donc, l'usage du terme du passé, du souvenir, ne suffit plus à contenir la contestation. Par contre, il est une des explications sur le mode de manifestation pacifique.
Oui. Mais on voit quand même que l'équipe en place joue un petit peu sur la menace terroriste qu'elle a combattue avec succès, semble-t-il. Est-ce que c'est un argument qui porte encore, ça, le combat contre le terrorisme dans le pays ?
Il a beaucoup porté, il peut continuer à porter. Il faut bien comprendre que l'Algérie est un pays où la population a le nationalisme très sourcilleux. L'Algérie se voit aussi encerclée par différents théâtres de déstabilisation. Il y a des relations plutôt froides avec le Maroc. Il y a la situation incertaine au Sahel. Il y a les dangers qui viennent de Libye. Donc, bien entendu, lorsqu'on dit aux Algériens attention aux menaces extérieures, etc., ils peuvent y prêter l'oreille. La nouveauté, c'est que ça ne les empêche plus de contester le régime. Donc, effectivement, le régime n'a que ça. En réalité, son seul argument et son seul, c'est ce que disait tout à l'heure aussi Khadija, c'est-à-dire que c'est un pouvoir qui n'a même plus de discours politique, qui ne sait plus le désarroi, il ne sait même plus quoi dire à son peuple, si ce n'est si vous défilez, n'oubliez pas que la Syrie, ça a commencé comme ça. Oui, mais enfin, c'est pas un projet politique que de dire ça aux gens. Et pour rebondir aussi sur la question de l'opposition, les Algériens sont en train d'inventer quelque chose. Alors, je sais pas si ça va aboutir ou pas, mais le danger, à mon sens, serait de lire la situation de manière classique et d'attendre qu'on ait un Vaclav Havel ou une opposition qui émerge. C'est une expérience en cours. C'est un pays de 42 millions d'habitants, 45 peut-être. Il est impossible que dans ce pays, il n'ait pas une dizaine de milliers de personnes dont les compétences vont être mises à profit pour mener la transition. Le seul problème, c'est que nous n'en sommes pas encore là. Oui. On est toujours dans un statu quo, c'est-à-dire que nous parlons effectivement de la situation, mais pour le moment, le quatrième mandat va être étendu et toutes les figures du régime sont encore là.
Et pour sortir de ce statu quo, il y a des femmes algériennes qui disent que le changement va passer, Khadija Mohsen-Finan, par l'abrogation de ce code de famille archaïque, disent-elles. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Oui, bien sûr, il est archaïque. Il est archaïque et il est même anachronique, je dirais, et il est insultant pour les femmes algériennes. Alors, chaque groupe va avoir ses propres revendications qui vont venir s'ajouter aux revendications communes, évidemment. Mais je crois que ça fera partie du changement et il y a des éléments, des facteurs symboliques comme ce code de la famille qui sera, à mon avis, abrogé en premier. Mais ça fait partie aussi de ce dont on veut se débarrasser. Alors, il y a ça, bien sûr, parce que c'est tout à fait symbolique, mais il y a d'autres choses. Par exemple, la stabilité mise en avant par ça fait partie du discours du pouvoir, nous ou le chaos. Et tout ça, on veut s'en débarrasser en Algérie. Donc, ça fait partie de tout ce dont on veut se débarrasser, qui soude d'ailleurs les protestataires.
Un mot rapide au journaliste Akram Belkaïd, le rôle de la presse dans les événements actuels, on la sent plutôt libre, non ?
Oui,
partie, en tout cas.
Je voudrais simplement d'abord saluer tous les confrères d'Alger qui nous informent, qui sont très présents sur les réseaux sociaux et grâce à qui on a énormément d'informations. Les journaux de presse écrite qui font un très bon travail et du coup leurs collègues audiovisuels où la situation est plus compliquée, où la censure s'exerce réellement, mais qui eux aussi sont en train de revendiquer leur droit à informer librement les Algériens.
On n'en dira pas davantage, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous les deux, Khadija Mohsen-Finan, spécialiste du Maghreb, des questions méditerranéennes. Je rappelle le titre de votre livre, Dissident du Maghreb, c'est chez Belin, et Akram Belkaïd, journaliste au Monde Diplomatique, chroniqueur au Quotidien d'Orient et collaborateur au site Orient 21. Votre livre vous s'appelle Le pays empêché, l'Algérie en 5 questions, en 100 questions, il en faut au moins 100 pour bien comprendre la problématique. C'est aux éditions Talendier. Je crois que la sortie est prévue au début du mois d'avril, vous me l'avez dit tout à l'heure. L'émission a été préparée par Arnold Assoua, merci à lui, réalisée par Fabrice Violet, merci aussi, et à la documentation Simon Carteret. Merci à vous, amis auditeurs, d'avoir suivi ce débat. Restez à l'écoute de RFI, un nouveau journal dans quelques secondes. Bonsoir à tous.